Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse, transition en terre inconnue, épisode 10. Coaraz, le tourisme au défi de la vie locale. La voix que vous entendez est celle de Solène, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode, sur un territoire traversé, écouté et observé aux côtés d'Alexia. Dans cet épisode, on parle de tourisme, de vie culturelle, d'authenticité, de beaux villages, d'un maire poète, d'un paradis, de projets farfelus, d'habitats insolites et surtout, de la volonté de préserver la vie locale face au tourisme. L'été, la Côte d'Azur est l'une des régions les plus touristiques de France. Nice en particulier attire une grande partie du tourisme de masse et la métropole se targue d'une très bonne santé économique avec un taux de réservation en 2019 en hausse de 3 points par rapport à l'an passé. Pour arriver jusque-là, un quart des touristes arrivent par avion et plus de la moitié par la route. L'aéroport Nice-Côte d'Azur assure une porte d'entrée exceptionnelle sur le territoire avec un trafic en hausse de près de 6% pour la saison 2019. Le tourisme, pour les territoires qui en ont le potentiel comme la Côte d'Azur, c'est une opportunité de développement économique assez facile. Mais laisser reposer 15% de l'activité territoriale sur un secteur économique saisonnier, fortement dépendant des énergies fossiles, ne nuit-il pas à sa résilience? Et que dire de l'impact environnemental de ces millions de passagers, dont les déplacements carbonés contribuent fortement au dérèglement climatique, et qui par leur simple présence et leur concentration participent à la dégradation des espaces naturels. Loin de l'affluence touristique estivale, c'est en novembre que nous nous sommes rendus à Coaraz, dans l'arrière-pays niçois. Depuis Nice, il y a une demi-heure de route. Nous prenons un train, puis un bus, puis continuons à remonter la vallée du Paillon en autostop. C'est au fond de cette vallée, à la route sinueuse, qu'apparaît le village perché au sommet d'un mont. À l'image des territoires ruraux, Coaraz échappe aux problématiques du tourisme de masse. Est-ce pour autant que les questions de tourisme ne posent pas problème? Labellisé par les plus beaux villages de France, ayant connu un succès précurseur chez les artistes avant-gardistes dans les années 50, Coaraz aurait pu devenir un village envahi. Mais le choix de préserver la vie de village, garant de l'authenticité locale, a permis à Coaraz d'éviter la muséification et l'envahissement que connaissent d'autres villages alentour.
Ce qui est appréciable au village ici, c'est qu'il y a une vraie vie sociale et culturelle.
Lucien Massouko, producteur du label artisanal de musique Fato Incasa.
Il y a beaucoup d'enfants. Je crois qu'ils sont aux alentours de 70, 75 inscrits à l'école. Pendant pendant quelques années, il y avait 10-15 naissances par an sur le village, donc c'est vivant, il y a une vie culturelle. On peut passer tout l'été à Coaraz et il y a une programmation culturelle qui n'a rien à envier aux grandes villes d'à côté. J'y participe, de fait, mais on retrouve pas le même dynamisme de partout dans les villages. Il y a beaucoup de villages qui sont devenus des villages dortoirs. Ici, non, moins qu'ailleurs.
Ce que j'apprécie la vie ici, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la qualité de la vie. C'est...
Richard Lazari, ancien maquettiste et habitant de Coaraz.
On n'est pas loin de la ville, mais on est vraiment dans une espace rural. Déjà une chose, c'est très facile de prendre ses chaussures et de sortir de la maison et d'être immédiatement dans la montagne, aller se balader. Donc c'est quelque chose, la campagne et la montagne est vraiment très très proche. Ça c'est pour le côté personnel et vivant, quoi. Mais après, culturellement, c'est l'intérêt de vivre dans vraiment ce qu'on appelle une communauté. Sans le côté péjoratif de la chose, c'est pas communautariste, c'est une communauté de vie. Les gens vivent sur dans un même endroit, et comme on est très proche, eh bien on se connaît tous, on s'entraide tous, on participe tous à toutes les activités qui peuvent se créer sur Coarraze. Et des activités, il y en a des quantités, comme disait Lucien, il y a une programmation culturelle qui est débordante sur Coarraze, quoi. C'est impressionnant. L'été, toutes les semaines, il y a quelque chose. Et plusieurs fois par semaine, souvent, quoi.
Oui, il se passe plein de choses à Coarraze. Ouais, oui. Après, moi, je pense que c'est quand même... C'est beaucoup lié à la mairie, pour moi.
Hein. Virginie Prévost, directrice de l'espace de vie sociale à Coarraze.
Parce que c'est vrai que moi j'arrive toujours avec des idées, voilà, et ben on m'a jamais fermé la porte, quoi. Et c'est bien parce que ça permet de faire vivre le village, parce que il y a plein de villages en milieu ruraux où c'est des villages dortoirs, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Il faut faire. Nous, c'est vrai que si on veut avoir des actions, des activités, etc., s'il se passait rien à Coarraze, ben, c'est une heure de voiture aller-retour, quoi. Donc, puis quand on arrive ici le soir, on n'a pas forcément envie de ressortir, etc. etc. Donc, vraiment, de se créer un petit cocon, on va dire, hein, dans notre village, et de pouvoir... Parce qu'il y a vraiment plein de choses. Moi, je fais ça, mais il y a plein d'autres personnes qui font plein d'autres choses. Et du coup, bah, ça permet d'avoir un lieu de vie, mais c'est un privilège. Franchement, vivre à Coarraze, c'est un privilège. Hein. Voilà, enfin, moi, pour rien au monde, j'irai ailleurs. Hein. C'est pas possible. Là, maintenant, on est trop bien ici. Hein. C'est le pays des bisounours, hein, en fait. Hein. Non, mais il faut être clair. Hein.
Parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps, parce que je crois qu'il y a une veine culturelle qui descend de la montagne depuis des générations.
Oui, il y a une longue tradition qui remonte... Moi, je la connais depuis les années... ça a démarré dans les années 60, bien avant que je monte à Coarraze. Je ne connaissais pas à ce moment-là. Mais dans les années 60, il y a eu un maire qui s'appelait Paul-Marie d'Antoine, qui était un poète. Il était plus poète que maire, d'ailleurs. Et il a initié cette ville culturelle, et il a fait connaître Coarraze dans le milieu culturel de Nice, à travers l'école de Nice, à travers Jean Cocteau, à travers l'école de Nice avec Ben, c'est un peu créé ici avec le groupe Support Surface. Tout ça, il y a eu une émulation pendant des années comme ça, et ça a laissé une trace dans les mentalités des gens de Coarraze. Bon, après, il y a des périodes où il y en avait, l'activité culturelle était un peu moindre, mais ou différente en tout cas, différente. Mais là, actuellement, ben, elle est aussi due à la présence de personnes qui ont des responsabilités, qui sont conseillers municipaux, qui ont été conseillers municipaux, qui ne le sont plus maintenant, mais qui continuent à avoir des activités, qui sont conseillers municipaux actuellement, et qui initient un tas d'initiatives, d'activités culturelles. Voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, à quoi c'est dû, je ne sais pas. C'est peut-être le bonheur de vivre des gens qui fait qu'ils sont ouverts à ce genre de choses.
Nous avions déjà été à Coarraze, il y a de cela plus d'un an. À cette époque, nous faisions partie d'une troupe d'autostoppeurs et réalisions un voyage dans le quart sud-est de la France, au cours duquel nous jouions une pièce de théâtre que nous avions coécrite à 24 mains. Nous avions à l'époque profité de l'animation et de la vie culturelle du village perché en cette période estivale, et nous constituions nous-mêmes une partie de la programmation. Nous avions également assisté au championnat du monde de pilou, un sport local qui se joue au pied avec une pièce de monnaie. Mais d'où vient cette effervescence? Quelle est l'origine d'un tel dynamisme? Je laisse Alain Ribière nous conter l'histoire du village.
L'histoire culturelle, disons, de Coaraz, elle est assez intéressante. Alors, je ne sais pas par quelle boule a commencé.
Alain Ribière, ancien maquettiste et conseiller municipal adjoint à la culture.
Disons, on va commencer par le côté historique, effectivement. En 1953, il y a eu une élection qui a été très particulière comme élection municipale. Très particulière parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples en France. Il faut bien imaginer qu'en 1953, la culture, c'était Paris. La province, on ne parlait pas des régions, etc. C'était vraiment un peu le désert culturel. Il y avait un peu une exception quand même pour la France, c'était justement ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Parce qu'il y avait des artistes qui s'y étaient installés. Il y avait Picasso, Avaloris, il y avait Matisse avant, il y avait Cocteau qui venait souvent, il y avait qui a laissé des traces un peu partout, hein, à Vence, à Villefranche-sur-Mer, à Menton, etc. Peint des chapelles, à Menton, c'est la salle des mariages de la mairie, etc. Matisse à Vence, etc. Donc, il y avait quand même une vie culturelle plus importante sur la Côte d'Azur que n'importe où ailleurs en France, à part Paris, évidemment. Et le maire qui a été élu en 1953, qui s'appelait Paul Marie, il était à la fois le plus jeune maire de France, il avait juste l'âge légal quand il a été élu, il a fallu une dérogation parce qu'il n'avait pas encore l'âge légal au moment de sa candidature, à quelques semaines près, et il avait la double particularité, une qui n'était pas originale, d'être d'une très vieille famille de Coaraz, ce qui était à peu près le cas dans tous les villages, parce que c'était rarement les nouveaux arrivants qui s'installaient. Mais son autre caractéristique, c'était que c'était ni un agriculteur, comme c'était souvent le cas, ni un notable style notaire, instituteur, médecin, etc., mais que c'était un poète. Et donc, il faisait partie du club des poètes qui était à Nice. Et donc, il a amené à Coaraz quelque chose qu'il n'aurait jamais pu amener, qui n'aurait en tout cas jamais été accepté par la population si ce n'était pas venu de quelqu'un d'une vieille famille. Et il a pu faire accepter des choses qui n'auraient jamais été acceptées ailleurs. Donc, le club des poètes, il était animé par Jacques Lepage. Et Jacques Lepage a été important comme critique d'art par la suite. Et donc, ils animaient déjà une rencontre poétique qui se tenait dans la vallée des Paillons, à Sclos-de-Comte. Et quand Paul-Marie a été élu maire, ils ont fait monter cette rencontre poétique annuelle à Coaraz. Donc, se sont rencontrés à Coaraz dans les années 50, un peu, je ne dirais pas l'élite, parce que je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais disons des gens très importants dans le domaine de la poésie, et pas seulement localement. Et entre autres, Jean Cocteau. Et donc c'est de là qu'est née, il y a eu une volonté, à l'époque qui n'était peut-être pas dans la même démarche que celle qu'on a aujourd'hui comme vision justement de l'accueil, du tourisme et tout ça. Mais il y avait une volonté de développer le village. Un peu dans le sens de ce qui sont devenus Saint-Paul-de-Vence, Ouez. Mais il y a eu d'un autre côté une réticence de la population à cet éventuel envahissement. Autant il y a eu une ouverture certaine sur les événements et tout ça, autant du point de vue immobilier, par exemple, ils n'ont rien vendu, ils n'ont rien. Si bien que quand les choses ont périclité ensuite, le village n'avait pas été vendu à d'autres de l'extérieur et que la population a continué à exister ici. Et autant. Il y a un grand intérêt sur la vie artistique, autant sur le plan économique, c'était pas le top. Et il a mis la commune dans une situation économique qui n'était pas très, très enviable. Bon, il a vu des projets. C'était un poète, hein, aussi bien dans les projets. Il y avait un projet de faire un barrage sur le Paillon pour faire un lac. Et toute la colline en face, la Blaquière et tout, de faire un lotissement à la Blaquière. Et il y a même eu des publicités, entre guillemets, à l'époque, où on voit une nana en maillot de bain, en bikini, assise sur un muret, là, sur la route, en disant, style, j'attends que ce soit la plage, parce qu'il va y avoir le lac, et tout ça. Et donc, c'était des projets qui étaient un peu hors d'échelle et qui, heureusement, ne se sont pas faits. Et je pense qu'il a effrayé quand même, à la fois par la qualité de sa gestion et par les projets, la population. Sans compter que je pense que les derniers événements, style le meurtre rituel du cochon, ça a quand même un peu perturbé. Et donc, il a été battu. Il n'a pas fait un quatrième mandat. Et c'est un autre Paul-Marie, donc Paul-Marie de Lioux, qui a été élu.
D'une dynamique culturelle et artistique est née une ambition touristique, bien vite freinée par les réticences d'une population que les projets hors normes de son jeune maire ont effrayée. Malgré tout, Coiraz n'a pas été complètement épargné par les effets secondaires de son attractivité qui persiste encore aujourd'hui autour de sa renommée de village du soleil. Son environnement encore préservé attire également un nouveau type de tourisme récréatif qu'il expose parfois à des problèmes de surfréquentation et de dégradation de l'environnement. Cette fréquentation peut être perçue de façon différente selon les habitants, parfois même comme un envahissement.
On a eu et on a sur Coiraz des problèmes de tourisme qui ont été importants et qui maintenant sont aussi importants. Deux choses. Grâce à M. Paul-Marie d'Antoine, qui était maire de Coiraz, il a développé, parallèlement à tous les artistes qui sont venus, ce qu'on appelait le mois de l'objet d'art. Donc il faisait venir des artisans, des métiers d'art, comme ça. Et donc pendant un mois, il s'est installé dans le village et donc ça a attiré énormément de monde. Les gens montaient voir, donc c'était un peu une... Voilà. L'effet pervers... Et les retombées de ce mois de l'objet d'art qui a duré 5-6 ans, comme ça, je crois, peut-être un peu plus, mais par là. L'effet pervers, ça a été que beaucoup d'artistes, d'artisans, comme ça, ont trouvé le village sympa, ne se sont plus ici, et ils ont acheté des caves, ils ont acheté des appartements, ils ont acheté... Donc, ces caves, ces appartements, tout ça, ont été vendus, et puis le mois de l'objet d'art s'est arrêté. Et ces gens-là, on ne les a plus vus. Mais on ne pouvait plus accéder aux caves et on ne pouvait plus se loger parce que les maisons étaient fermées, parce qu'elles ont été vendues à des gens qui ne venaient plus. Ou alors qui venaient un mois en été, comme ça. Et donc on s'est retrouvé à un problème de logement sur le village qui a été très long à résoudre. Autre effet pervers maintenant, il y a ce qu'on appelle, le paradis, le petit paradis, les gorges du Paillon qu'il y a au bout de la commune, là-haut, sous la roque. Et nous, au début, on allait se baigner à la rivière, c'était bien, c'était bien. Et puis, petit à petit, ça s'est su, et est venue la mode du canyoning. Et ils ont trouvé que c'était un endroit pour faire du canyoning, ça. Donc ça s'est amplifié. Il y a quelques maladresses qui ont été faites, qui ont mis ça valoir le tourisme à Coiraz, pour faire prévaloir le tourisme à Coiraz. Ils ont mis ça sur des guides, donc ils ont fait de la publicité là-dessus. Et actuellement, il se retrouve, il y a des week-ends en été, ou même dans la semaine, où il y a 40, 50, 60 voitures qui sont garées au pont au bout du col Saint-Roch, là, et avec des centaines de personnes qui font du canyoning dans ces gorges. Ces gorges, c'est des espaces extrêmement fragiles. Or, quand il y a une centaine de personnes qui passent dans la journée avec des combinaisons en néoprène tous les jours pendant l'été, comme ça, qui raclent toutes les mousses, qui enlèvent tout, ça dégrade complètement l'environnement. Ça, voilà. Donc, le tourisme, moi, je veux bien quand il y a des gîtes et qu'il y a quelques personnes qui viennent comme ça, passer une semaine, visiter le village, se promener dans la région, aller faire quelques balades à pied, tout ça, ça, très volontiers. Mais l'agglomérat comme ça de gens importés pour quelques heures dans un endroit, dans un lieu qui est plutôt fragile écologiquement, pour moi, c'est une aberration totale.
C'est effectivement une situation qui est un peu particulière parce qu'on est confronté au phénomène éventuel de surfréquentation touristique pour certains points. Et il y a le fait que de toute façon, il est impossible pour nous d'accueillir trop de monde. Vu la structure même de la commune, s'il y a un envahissement de voitures, etc., on risque de se retrouver avec des phénomènes, comme Madame le maire l'a constaté elle-même, dans des villages qui, justement, ont participé à l'émission de Stéphane Bern, et ça a attiré un monde tel que, nous, quand on a eu des sollicitations, on a répondu qu'on refusait de participer à ce genre d'émission. Je crois que c'est à Saint-Cyr-la-Popie où elle a été, où le village est conservé de façon quasiment artificielle, presque, tellement c'est tout bien, tout beau. Mais tout l'environnement, ce ne sont plus que des parkings et des emplacements pour les cars, etc. et tout. Donc, pour nous, il n'est pas question d'arriver à ça.
Il faudrait quand même qu'il y ait des masses qui viennent et qui utilisent le paysage.
Michael Le Tertre, conseiller municipal.
Aller vraiment dans la nature, se promener en masse. Bon, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si on appelle ça du tourisme, en tout cas des activités sportives qui se déroulent sur le territoire de la commune, qui, si on fait un focus, sont pas super satisfaisantes, hein, notamment quand il y a des gens qui viennent faire du trial ou des choses comme ça. Effectivement, si on fait un focus sur la bande de terre qu'ils ont complètement ravinée, c'est terrible. Mais c'est aussi dans ce monde qu'on vit, quoi. On peut pas fermer, grillager la commune, espace protégé, inaltérable. Enfin bon, il y a des choses qui se passent aussi sur la commune, par les habitants de la commune. Peut-être ce sont les mêmes qui disent « Ah, le trial, c'est pas bien » ou « Le rallye, c'est pas bien ». Et puis, quand ça nous arrange, parce que j'en fais partie, eh bien, on brûle. Alors qu'on sait très bien que c'est pas bon, quoi. On fait tous ça, en fait. On fait tous des trucs qui sont pas cohérents, quoi, avec ce qu'on pourrait avancer par ailleurs, quoi. Donc, je pense pas que le tourisme aujourd'hui tel qu'il est, et quand bien même il grossirait un petit peu, les gens ils viennent dans cet espace naturel, je pense qu'il n'y en a aucun qui a des velléités de dénaturer cet espace, en fait.
C'est sûr que pour la commune de Coiras, qui est une commune de 850 habitants, on n'a pas énormément de ressources, de recettes.
Monique Giraud-Lazari, maire de Coiras.
Et donc le tourisme en est une, de manière modérée bien sûr, puisque on a des gîtes ruraux, on n'a pas d'hôtel, mais on a nous des gîtes communaux aussi, ce très beau gîte communaux qui attire une clientèle plutôt des écolos, c'est-à-dire des gens qui font de la randonnée ou des gens qui veulent se mettre au vert, enfin voilà, c'est surtout ça. Donc c'est un choix de tourisme limité, comme on va dire, c'est-à-dire que quand on voit arriver, on a rarement des cartes de japonais. J'ai rien contre les japonais, hein. Attention. Mais bon, on a rarement des cartes de japonais qui débarquent comme ça, ou même d'autres nationalités. Mais on a des japonais qui recherchent justement le traditionnel, ce qui est intéressant pour eux, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui n'est pas connu de tous. Et on a eu comme ça des reportages de japonais sur les ouvertures, les fenêtres, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, ils ont fait toute une vidéo là-dessus, qui est passée au Japon d'ailleurs. Mais voilà, ça, ce genre de tourisme, ça, c'est bien, parce qu'ils ne viennent pas consommer forcément, ils viennent chercher quelque chose pour eux. Donc, et pour nous, ça nous, bien entendu, ça nous attire un petit peu de recettes. Voilà.
Moi, je suis pas très spécialiste de ça.
Jean-Prince Vallée, directeur des éditions Lamourier à Coarraze.
Parce que j'ai peu de rapport avec les touristes, les rares qui s'arrêtent là pour nous demander ce qu'on fait. Voilà, oui. Mais d'une manière générale, puisque je suis tout à côté de la maison du patrimoine qui nous sert de syndicat d'initiative, j'en bois quand même et je peux constater que ce sont des gens de qualité. Il y a le fait, je ne sais pas si c'est la difficulté d'y arriver ou quoi qui fait le tri, mais on a un tourisme de qualité. Les gens s'intéressent à l'architecture. Il y a quelque chose qui est intéressant là.
C'est l'heure de la controverse. Sur la base de ce qu'on vient d'entendre, 5 minutes de questionnement autour du tourisme rural. On est de retour en studio avec Maxime pour discuter la question du tourisme rural. À savoir que le tourisme rural représente 30% de la fréquentation touristique totale en France et qu'il est souvent perçu, en tout cas dans les représentations collectives, comme une forme de tourisme doux ou de tourisme vert, donc notamment avec l'émergence de l'écotourisme. Et moi, je me pose un peu la question de savoir s'il existe vraiment un tourisme écologique, un tourisme vertueux en quelque sorte, et les points de vigilance à avoir autour de cette question.
En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot écologique, encore une fois, puisque aujourd'hui, il y a différents postes de problèmes écologiques liés au tourisme. Le principal poste, ce sont les déplacements qui émettent en général beaucoup de CO2, donc que ce soit par la voiture, l'avion, enfin différents moyens de transport. Plus on vient de loin, plus les émissions liées au tourisme sont importantes, et quels que soient les comportements une fois sur place. C'est-à-dire que même si un touriste vient de très loin et a des comportements vertueux sur place, s'intéresse à la nature, s'intéresse à son environnement et le respecte absolument, il y a quand même un impact carbone important. Donc si on parle de l'écologie comme de l'empreinte carbone, ça pose un problème.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi, je trouve, l'impact local, et ça s'entend beaucoup dans les témoignages qu'on a eus à l'instant, c'est que sur des territoires ruraux, on peut, même sur un tourisme doux, avoir des problématiques qui impactent les habitants et qui notamment donnent la perception d'un envahissement. Et donc je pense que c'est quand même très important de prendre en compte ce point de vue des habitants et de dire que l'écologie, en tout cas, ça ne se limite pas uniquement à l'empreinte carbone, même si je suis d'accord que ça doit être pris en compte, et que c'est important d'avoir des activités raisonnées et modérées sur le territoire.
Oui, et en même temps, ça veut dire que si on décide de limiter cette consommation touristique et ce qui peut être perçu comme un envahissement, ça veut dire qu'on trie, et en général, ça se traduit par une sélection basée sur des jugements de valeur et on va préférer des comportements qu'on qualifiera de vertueux et qui en fait sont généralement associés à des classes sociales qui sont sensibilisées aux questions environnementales. Et de façon générale, l'écotourisme est élitiste par cela et aussi parce que c'est beaucoup plus cher d'avoir des comportements vertueux en pratiquant le tourisme. C'est-à-dire qu'on va aller dans des hôtels, bon, en l'occurrence à Coarraze, c'est pas pertinent, mais j'élargis en général la question du tourisme, de l'écotourisme. Les hôtels alimentés par des énergies renouvelables avec une gestion intégrée de l'eau parfaite environnementalement sont généralement beaucoup plus chers que des hôtels classiques. Ça veut dire que si on veut trier, on va trier selon des critères qui posent question.
Oui, je pense que au-delà de ça, enfin, il y a effectivement un tri qui est fait par l'offre de résidence en milieu rural. Je pense qu'il y a des mécanismes de marché qui conduisent à privilégier des accueils de qualité, de très grande qualité. Et en fait, on peut se poser aussi la question des raisons qui poussent les personnes à venir en milieu rural. Et je pense que c'est un peu un tourisme de distinction, en fait, parce qu'on recherche des choses différentes des autres, parce qu'on ne veut pas se fondre dans la masse. Et c'est aussi un tourisme qui s'adresse essentiellement à des personnes urbaines. Et donc, on peut se demander un peu si la ruralité, ça ne deviendrait pas un lieu de récréation d'urbain en manque de nature, d'une certaine manière. Il y a une autre question qui ne se pose pas non plus à Quaraz, mais qui est un sujet, il me semble, un peu important. C'est que l'écotourisme, il se développe aussi autour de l'agritourisme, donc le tourisme dans des fermes pédagogiques, etc. Et que, en fait, de plus en plus, on va demander aux fermes de diversifier leur activité et notamment d'explorer le secteur touristique. Et donc, ça devient un impératif pour certaines fermes qui justifierait, entre guillemets, que, en fait, une activité agricole n'est pas rentable et qu'il faut y accoler une activité touristique. Donc, ce n'est pas forcément souhaitable pour le monde agricole, je pense. Mais par ailleurs, ça peut aussi être un levier de transformation des pratiques agricoles, puisqu'on va rarement faire de l'agritourisme dans des fermes intensives. Et donc, on peut peut-être plus le voir comme ça que comme un impératif.
En tout cas, c'est des questions qu'il faut absolument prendre en compte si on veut réfléchir à une politique touristique qui à la fois respecte l'environnement et en même temps n'effectue pas de discrimination liée au comportement. Comme l'a dit la maire, c'est une ressource économique, c'est une source d'emploi non négligeable. Il ne faut pas que ça devienne un objectif en tant que tel de faire du développement économique sur la base du tourisme. Mais ce qu'il est possible de faire grâce au tourisme, il faut le faire en ayant ces questions en tête.
De retour à Quaraz, avec nos protagonistes qui nous expliquent comment le village a fait le choix de préserver ses activités à destination du public local plutôt qu'en s'orientant vers le tourisme.
Nous, on a toujours privilégié les activités qui sont en direction des gens qui habitent le village. Des gens qui vivent au village, qui travaillent au village ou qui simplement qui vivent au village, et pas d'activités qui attirent des centaines et des centaines de personnes.
Souvent on a dit le tourisme, l'économie, on essaye de baser l'économie sur le tourisme, et moi je trouve que c'est assez dangereux quand on base la totalité d'une économie, des ressources d'une région quand on met tout sur une seule ressource, c'est-à-dire ici essentiellement le tourisme et le service. Quand ça arrive au bout de ses capacités, et ben tout s'écroule. Et quand on fait une activité culturelle, ce qui est mon cas. On ne vit pas du tourisme. Là, on développe la culture pour les gens qui vivent autour de nous, pas pour les touristes. Les touristes, ils passent. Des fois, ils assistent à un concert ou à un spectacle. Mais on ne fait pas du spectacle pour les touristes. On fait du spectacle où on développe de la culture parce qu'on en a besoin. Et on fait ça pour vivre.
Moi, je pense que c'est un supplément, un complément. Ça ne peut pas être le fond. Le fond du truc, je vois. On en a des villages, pour l'archétype, c'est Saint-Paul-de-Vence. Il y a un tas de gens qui font des choses qui sont destinées aux touristes. Et donc, la vie locale tourne qu'autour de ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de vie sociale à proprement parler, sinon du copinage entre... Les gens qui font soit de la sculpture, soit de la poterie, soit de etc., etc., le tout étant pour tirer 4 sous aux gens qui passent, quoi. Donc, peut-être que c'est pour, ça a été pour eux la seule solution de, d'arriver à une autonomie en restant habité là. Hein. C'est pas impossible. Mais ça serait beaucoup plus harmonieux si tout le monde pouvait trouver sur place de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et un travail à faire. Quoi. Le développement, il faut qu'il se fasse en harmonie. Vous savez, c'est une des choses que je dis depuis toujours, c'est que le tourisme, c'est pas de faire venir des quarts de vieilles à moitié mortes dans un village mort. Hein. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent au village. L'atmosphère, à ce moment-là, change. Hein, quand on entend quelqu'un qui tape sur un bout de fer quelque part, y a une activité, même dans le tertiaire, si un jour on a la fibre, il y a des choses à faire.
Mais il y a peut-être des choses qui n'ont été pas faites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme c'est un très beau village, il y a beaucoup de gens qui viennent le visiter. Mais moi, je vis dans le village, donc j'y passe la journée, je les croise. Et souvent, ils trouvent ça très beau, ils sont très contents. Mais il y a une buvette en haut du village l'été, le bar ici où on se trouve en bas du village. Et puis, mis à part voir de belles choses avec les yeux, c'est tout. Il n'y a pas de boutique de souvenirs, il n'y a pas de piège à touristes, de salon de thé.
Pendant le mois de l'objet d'art, effectivement, on trouvait tout et n'importe quoi à vendre dans le village. Il y avait des boutiques de tout, dont des boutiques, des caves avec des artisans, donc il y en avait des très intéressants, mais il y avait aussi, et ça démarrait, des gens qui... C'était pas encore les Chinois qui fabriquaient, mais dans les années 70, c'était pas encore les Chinois, mais il y avait... Des revendeurs d'articles de tourisme, de bêtises, moi j'appelle ça des cagades. Et donc ça s'est arrêté, ça n'a pas été repris par la municipalité qui a suivi. Et le syndicat Initiative, à ce moment-là, a un peu annulé ce genre de choses. Et donc effectivement, je ne dis pas que tout a été fait, mais rien n'a été fait pour que... on puisse devenir un village crèche comme il y a à l'Orgue, partout en Provence, où les boutiques, les murs sont bien refaits, où tout est propre, tout est joli, tout ça, mais où il n'y a personne qui habite. Quoi. Où il n'y a personne qui habite, parce que, où il n'y a pas d'enfants qui courent dans les rues, parce qu'il y a trop de touristes qu'on ne peut pas. Donc ici, il y a des enfants qui courent dans les rues, et ça, c'est vachement bien.
C'est une position complètement volontaire, oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des animations qui sont des animations banales qu'on retrouve un peu partout, dans tous les villages et à Nice. Et ces animations ne nous servent pas beaucoup. Je veux dire, si, les petits villages comme nous, on a besoin d'avoir une spécificité, une originalité. Et Quaraz, pour ça, elle a une originalité depuis très très longtemps. Et donc, on essaye de conserver cette originalité sur le plan animation culturelle. On n'est pas trop des sportifs, c'est sûr, mais on a quand même le championnat du monde de pilou qui est un truc un peu spécifique. Voilà, c'est une marque de fabrique. Vous avez vu, on a Fatou Incaz qui est des musiciens qui font ça. En marge, un petit peu. Moi, je considère un peu que Quaraz est un village un petit peu en marge dans son originalité, quoi. Et c'est ça qu'il faut conserver. Je sens que ça peut tomber très facilement. Ça peut tomber très facilement dans le... Je ne critique pas mes collègues, mais c'est une volonté. Avance, par exemple, c'est un très beau village, mais il ne vit pas. Enfin, je veux dire, c'est artificiel. C'est très beau, c'est un beau décor. Mais il manque l'humain là-dedans. Enfin, moi, je considère, comme d'autres villages, Saint-Paul-de-Vence, pareil. Et ils sont tous en train d'essayer de revenir sur eux. Oui, oui, oui. Il y a bon, je le sens à travers maintenant la campagne qui démarre. Hein. Je suis en plein dedans. Mais je sens ça. C'est-à-dire que les gens sont moins attirés par une façade et ils cherchent l'authentique, comme on dit un petit peu ici. Hein. Ce qu'on recherche ici, en, politiquement parlant au sens noble du terme, c'est que les gens vivent au village, vivent sur la commune, et ils trouvent leur bien-être, bien vivre ensemble. C'est pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'il y a eu, au tout début, on a fait une micro-crèche. Ça a l'air de rien, mais cette micro-crèche, elle a drainé des jeunes parents qui se sont installés à Coiraz. Et depuis 2010, puisque ça fait depuis 2010 qu'elle est là, je veux dire, on a un apport de jeunes qui font, voilà, qui font vivre le village. Ça, c'est aussi c'est important, ça. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, les résidences secondaires étaient supérieures aux résidences principales. Et là, ça a complètement basculé. Maintenant, il y a beaucoup de résidences principales, comme je disais tout à l'heure, par le choix des gens qui ont décidé de s'installer ici. Ils fuient Nice, en fait. Beaucoup, tous ceux qui sont là, dire, hein, c'est pas possible, on n'en peut plus. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun, down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day.
C'était la chanson Riverside de Agnès Obel. Si Coaraz échappe au tourisme de masse et aux trop grandes perturbations liées au tourisme, ce secteur d'activité reste symboliquement important aux yeux des habitants, comme facteur de valorisation des savoir-faire locaux, du patrimoine, du développement économique et de l'opportunité qu'il représente pour des projets personnels. Mais toujours dans la modération et un fort ancrage aux dynamiques collectives locales.
Moi, ce que je trouve qui serait génial, c'est de mettre en avant le savoir-faire local. Parce que ça, il y a plein de gens sur Coiraz qui savent faire plein de choses. Mais vraiment, hein, que ce soit du métier manuel, que ce soit du métier artistique, il y a des personnes qui sont très douées. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucun espace, on va dire, à part deux, trois trucs à l'office du tourisme en vente, quoi. Mais il n'y a aucun espace où on pourrait mettre en avant ce savoir-faire-là et ce côté artistique-là. Donc ça, c'est quelque chose qui manque, moi, je trouve. Donc j'y réfléchis depuis quelques temps. Un jour, on va trouver un truc à faire, je suis sûre. Mais voilà, c'est vrai que bah, y a quelqu'un qui travaille le bois, il y a quelqu'un qui fait de la poterie. Après, il y a plein de musiciens aussi. Il y a plein d'artistes à Coiraz. Mais voilà, c'est vrai que la personne qui a envie... Moi, je sais que quand je vais voir un village, j'aime bien voir l'artisanat local. Et là, c'est vrai que ce qui manquerait, c'est peut-être un endroit ou un espace... grand, ou alors un parcours ou je ne sais quoi, qui permettrait de mettre en valeur l'artisanat local parce qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc ça, c'est vrai que moi, je trouve que c'est dommage. Mais après, c'est toujours pareil, hein. Il faut qu'il y ait une dynamique pour que ça se mette en place et c'est pas toujours évident, quoi.
Mon objectif était effectivement plutôt de générer de l'activité pour me permettre de prendre mon plaisir ici, quoi. Et donc, ça s'est fait petit à petit, quoi. Et l'idée, c'est donc, puisque mon terrain est très accidenté, de pouvoir poser des hébergements atypiques, insolites, sur ce terrain, et donc pouvoir accueillir des gens ici, sur place, avec le sourire, parce que du coup, ça me fait plaisir de pouvoir accueillir des gens chez moi, quelque part, et de leur montrer cet endroit magnifique où on vit, quoi, à Coiraz. Du coup, il y a aussi l'idée de leur faire découvrir aussi les bons produits qu'on a dans ces vallées-là, qui sont faits par les gens qui y vivent et qui y travaillent, parce que ici, on a peu de production, quoi qu'on en a quand même un petit peu sur de la viande, parce qu'on a des éleveurs sur un autre quartier. Sur la commune d'à côté, à Lucéram, il y a pas mal de gens qui produisent, qui font des produits à base d'olives. Il y a aussi, sur la commune de Coiraz et à Lucéram, des apiculteurs. Donc, et puis après, dans le bas des vallées, il y a des agriculteurs, etc. Donc il y a aussi moyen de pouvoir les restaurer avec des bons produits, quoi. Et après, ça fait quand même 35, presque 40 ans que je fais du scoutisme. Et ça me plaît de faire ça. Ça me plaît de faire ça, c'est-à-dire de partir en pleine nature, organiser un bivouac, se faire un feu, se faire de la nourriture autour du feu. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas amener des gens vivre ces expériences-là, quoi, un petit peu, qui sortent à la fois qui sortent du quotidien et puis qui peuvent aussi sortir un peu de sa zone de confort du quotidien, quoi.
Alors, ce qu'il y a, c'est ce qui manque ici, parce que faut quand même dire, il y a plein de choses qui sont positives, mais il y a des choses qui sont négatives. C'est de maintenir un restaurateur sur place. Ça, c'est compliqué. Ça dépend pas trop de nous. On aide comme on peut, mais c'est donc on a la chance d'avoir là cette année un restaurateur qui s'est installé et qui a l'air de se maintenir. Mais ça, c'est compliqué, hein, c'est dur.
Je pense que Coiraz a un très bon potentiel. La commune, l'été surtout, elle organise beaucoup de manifestations.
Cynthia et Roland Thiebaud, restauratrices et restaurateurs.
Pour attirer le tourisme. Nous aussi, en tant que restaurant, nous essayons d'agrandir, je ne sais pas comment expliquer, d'attirer du monde ici, à notre petit niveau. Hein. Et effectivement, on fait un concert tous les 15 jours. Nous l'organisons ici, dans notre local. Et c'est justement dans le but de faire vivre Coiraz et d'apporter un peu de joie aussi. Et le tourisme, pourquoi pas. Parce que si les gens ils savent qu'à Coiraz, il y a quelque chose à faire, ils y restent. ils apprécient plus. Mais les, par rapport au remplissage de notre commerce, l'été, ça marche bien. Mais l'hiver, c'est calme. C'est grâce aux rallyes qui sont organisés que nous arrivons à être complets parfois aussi en chambre d'hôte, disons. Et donc ça aide. Il y a beaucoup de courses, de rallyes. Et donc, les gens ils sont attirés et du coup, ça fait que nous pouvons travailler.
Ben nous, ce qui nous a donné envie de reprendre le restaurant, c'est... Bon, on avait déjà un petit restaurant qui était aux Chambres d'Hôtes. Hein, et c'est la proximité du village, surtout, voilà. Et on a vu l'opportunité donc, de le transférer ici. Et on ne regrette pas parce que bon, on voit beaucoup de gens. Voilà, c'est une belle initiative. Nous, quand on était, bon, c'est qu'on a les chambres d'hôtes, on est plus retirés, donc on était moins en contact avec tous les anciens de Coirade aussi. Donc on connaissait beaucoup moins, malgré que moi je suis du coin, mais je connaissais beaucoup moins de choses. Et j'ai appris énormément sur Coirade, hein, parce qu'il y a des personnes déjà qui ont toujours vécu ici, qui frôlent 80, 90 ans même. Hein, et c'est vrai qu'ils connaissent le village, vraiment, ça fait plaisir, quoi, voilà. Moi, j'ai connu Coirade. Bon, c'est vrai qu'il y avait un tourisme beaucoup plus développé quand même. Il y a eu une baisse et puis là, bon, on a l'impression que ça repart. Ça repart et c'est vrai que bon, on a l'impression que c'est en train de reprendre un peu le tourisme à Coirade. Hein, voilà. C'est vrai que la municipalité propose pas mal de manifestations, ce qui appelle un peu les gens aussi, par la publicité, par bon, un peu partout. Et sans oublier qu'on est un des plus beaux villages de France aussi. Voilà, et d'ailleurs, Coirade est conservé vraiment dans son jus, je veux dire, hein, médiéval. Hein, voilà, c'est une très belle balade à faire. Hein.
Le label des plus beaux villages de France dont parle le restaurateur, c'était ce qui nous avait attirés à Coirade la première fois que nous y sommes allés. Pendant notre tour en autostop, nous souhaitions voir du pays, des beaux villages. Mais c'est aussi à ce moment-là que nous avons commencé à remettre en question cette vision idéalisée de la ruralité. Nous avions finalement décidé de ne pas faire de la beauté supposée des villages un critère de choix pour nos destinations. Ce label pose également beaucoup de questions, notamment sur la notion d'authenticité, souvent recherchée dans le tourisme rural, mais qui par bien des dimensions peut conduire à la muséification des villages. Paradoxalement, ces labels ont des critères très stricts qui, alors même que chacun souhaite se distinguer des autres, tendent à faire converger les évolutions de ces villages. Je laisse donc à nos répondants le soin de nous expliquer leur conception de ce label et nous présenter deux autres labels dont ils sont tout autant, voire plus fiers.
C'est absurde parce que comment dire que Coirade est un des plus beaux villages de France dans la région alors que... Enfin, moi, il me semble que la plupart des villages de la région sont tous autant magnifiques les uns que les autres. Mais ils ne sont pas labellisés, c'est tout. C'est un label, c'est comme les labels bio.
Qu'est-ce que c'est un beau village? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un beau village? Ça tient à quoi? Je ne sais pas. Donc...
C'est très beau, ça Orge, c'est très beau, Paye, c'est très beau. La plupart des villages ici sont magnifiques.
Moi, le beau village, c'est là où je me sens bien et où je vis bien. Quoi. C'est ça, hein. Ça se limite à ça. Alors, les gens, ils viennent regarder quoi?
Je pense que l'obtention d'un label, c'est une démarche commerciale à une époque. Qui est resté là, mais comme quelqu'un qui cultive et qui a besoin d'un label bio parce que ça lui donne accès à un marché.
C'est une volonté de maintenir ce label parce que malgré tout, c'est ce qui nous amène le plus de monde. Et on est content que les gens viennent. On ne veut pas tomber dans la surfréquentation. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, nos préoccupations, elle commence, alors c'est pas à cause de nous, hein, je pense que ça fait partie aussi de l'évolution, elle commence à être prise en compte au niveau des plus beaux villages de France et du label. Parce que Monique, elle y a été, je ne sais pas à combien d'assemblées générales, avec Simone, qui est conseillère municipale, je parle pour les derniers temps. Et la préoccupation que ça ne devienne pas des villages complètement artificiels, complètement morts et tout, est un critère qui commence à être pris en considération par le label. C'est-à-dire qu'il demande qu'il y ait quand même toujours des activités qui maintiennent en vie une population locale. Et ça, c'est une évolution qui est intéressante.
Alors, le label Les plus beaux villages de France, c'est un beau symbole. Hein. Nous, on n'a pas été le chercher, il y était déjà quand on est arrivé. Donc, on l'a maintenu. Pourquoi on l'a maintenu? Parce que, l'air de rien, énormément de gens vont sur le site des plus beaux villages de France et ils sont attirés par, par les villages qui en font partie. Et beaucoup de gens viennent ici grâce à ça. Après, moi, j'ai été souvent, depuis 3 ou 4 ans, je vais à l'AG des plus beaux villages de France et j'ai senti une évolution dans leur système. Avant, c'était... c'était le village avec des fleurs, le village avec bien pas de fil apparent, pas de ci, pas de là, enfin voilà, une carte postale. Bien sûr, ça doit faire partie aussi d'un des critères, mais ils sont maintenant plus sur la vitalité du village, c'est-à-dire sur comment ce village qui peut être très beau vit et continue à vivre. Et c'est pour ça que nous, on l'a maintenu, parce que le côté... Bien sûr, c'est un beau village, mais bon, si on va dans le détail, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ça coûte tellement cher que, qu'on ne peut pas le faire d'emblée, qu'on le fait petit à petit. Enfin, c'est compliqué. Et ils sont très sévères. Hein, je veux dire, c'est pas rien.
Hein. Il n'est pas question non plus de tomber dans le côté musée. Moi, je n'étais pas là au moment où Coaraz a été inscrit dans les plus beaux villages de France. Il faut reconnaître que c'est de toute façon une appellation qui est un peu artificielle, puisque il faut le demander, adhérer, payer à l'association, etc. Ce n'est pas comme les classements de l'UNESCO, ce n'est pas un jury neutre qui fait ça. Et donc, c'est du temps de mandature, c'est pas du temps de la précédente mandature de Monique, ni même celle du maire d'avant, ça date du maire encore antérieur. Et on a été souvent un peu limite quand il y a des visites, parce que justement, eux, ils étaient, en tout cas, beaucoup dans le joli, disons. Et on répondait souvent pas vraiment à leurs critères de joliesse. Et on ne le voulait pas non plus. Parce qu'on privilégie le côté de la vie locale qui continue d'exister. Et ça, c'est important. Moi, j'en ai vu quelques-uns, parce que j'ai circulé pas mal, des plus beaux villages de France, où on a l'impression que pratiquement on vient de construire, y compris les ruines. C'est-à-dire qu'à force de tellement normaliser, on a enterré tous les fils électriques, on a donné des normes pour les couleurs d'enduit, etc. Et tout. Comme ils ont effectivement, c'est logique, refait les joints des murs, des châteaux un peu en ruine et tout. Tous les enduits sont exactement de la même couleur, c'est tout à la chaux, mais teintés avec les mêmes ocres, etc. Les boutiques ne sont pas des boutiques qui servent aux habitants du village. Hein. C'est, au mieux, c'est de la production locale artisanale. Au pire, c'est du faux artisanat importé, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce dans quoi on ne veut pas tomber. Et effectivement, c'est extrêmement difficile à la fois de favoriser l'accueil de visiteurs et en même temps de ne pas les accueillir de cette façon-là et de ne pas risquer de tomber dans le... soit dans le cliché du joli, on est contre le joli, soit de leur proposer des souvenirs, entre guillemets, à emporter qui correspondent à rien, en fait, quoi. Donc, on essaye continuellement de se maintenir entre ces deux pôles.
C'était l'épisode 10 de La Traverse, transition en terre inconnue. Merci à la ville de Coiras pour nous avoir reçus pour la deuxième fois si chaleureusement. Merci à tous les intervenants et les intervenantes de nous avoir accordé de leur temps, et notamment au label de musique artisanale coarasien, Fato in Casa, fait maison, de nous avoir permis d'avoir une bande-son locale avec des extraits de l'album Mezcla du groupe Rocasera Quartet, enregistré à Coiras. Dans le prochain épisode, on sera dans le Kochersberg, à côté de Strasbourg, à la rencontre des habitants et des collectifs en lutte contre le grand contournement ouest, un projet d'autoroute de 24 km pour contourner Strasbourg et qui a soulevé de fortes oppositions. Et d'ici là, portez-vous bien !